Alors, je dois dire que c'était passionnant. Je vais essayer d'en rendre compte de façon un peu, je dirais, orthogonale, comme on a dit hier, pour éviter des répétitions. Et puis aussi, ça va me permettre de mettre mon grain de sel. Parce que, à la fois, alors je voudrais présenter d'emblée, j'ai beaucoup travaillé à l'éducation nationale, j'y suis depuis 70, mais j'ai aussi eu des digressions, notamment dans des établissements de la jeunesse et des sports ou du sanitaire et social. Donc ça donnera une coloration un petit peu différente. Alors, comme le temps est très court, l'exposé qui a commencé, par le fait que finalement, les professionnels de Marly-le-Roi ne s'étaient jamais posé la question du temps. Bon. Et, disons, compte tenu de ce que j'avais préparé, ça m'a intéressé parce que, par rapport au binôme temps contraint, temps libre, je m'étais dit, mais finalement, quel est le temps que l'on compte? Quel est le temps que l'on additionne? Parce que quand on additionne les journées de ces élèves internes, elles sont tellement pleines qu'on se dit, est-ce que finalement les professionnels ont réalisé vraiment quelle était, je dirais, la dureté de cette journée de l'interne? Et peut-être, vous voyez, réfléchir, qu'est-ce qu'on compte, comment est-ce qu'on regarde, quelle distance on prend par rapport à ça. Et alors, l'internat de Marly-le-Roi est un internat spécifique, comme tous les internats, chacun a son type de public, ses effectifs, sa localisation, ses partenariats, etc., ses réseaux. Mais à la fois, peut-être qu'on peut souligner comme un paradoxe, hein, puisque j'ai pas beaucoup de temps, je suis obligée d'être un peu caricaturale, comme un paradoxe, le fait que un internat qui n'est qu'internat, donc ce n'est pas un établissement intégré, qui est à la fois internat et puis collège, lycée, comme peut l'être Montpellier, Douai, etc., ne se pose pas la question du temps. C'est tout à fait, je dirais, pour moi, paradoxal, puisque ils ne sont qu'internats. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que finalement, ce qui explique cette approche, c'est que les temps contraints de l'internat d'excellence, qui est en réseau avec de multiples établissements, et ils sont particulièrement nombreux dans le cas de Douai, depuis le collège jusqu'au lycée, depuis des collèges jusqu'à des lycées, eh bien, fait que l'internat se voit en quelque sorte comme le réceptacle des contraintes des établissements avec lesquels il travaille, dans lesquels ses internes sont scolarisés. Donc, si vous voulez, c'est, vous voyez, à la fois je m'étonnais d'une certaine perspective et en même temps j'essaye de l'expliquer en repérant ce qui peut justifier cette approche. Donc, il y a une perception des contraintes concernant la structure et la structure de l'établissement qui fait qu'il n'y a pas radicalement de dissociation entre les contraintes liées à la structure institutionnelle, les contraintes, disons, ce qui est de l'ordre du point de vue des élèves et ce qui est de l'ordre des professionnels. C'est-à-dire que les choses restent en quelque sorte entrelacées. Alors, je voudrais souligner aussi le fait que ces professionnels ont insisté sur la dimension finalement très réductrice et très décalée du binôme temps contraint, temps libre. Et ils ont proposé à plusieurs reprises une trilogie temps disponible, temps utilisable, temps utile. Le temps utile étant le temps rentable pour le travail, efficace en quelque sorte pour le travail scolaire. Bon. Donc c'est intéressant de voir comment on se dit qu'on va organiser une classification qui permette de rebattre les cartes pour penser le temps. Alors, ça permet de rebattre les cartes, mais ça met à jour, me semble-t-il, une distinction qui n'a pas forcément fait l'unanimité dans le groupe, où on voyait dans les interventions peut-être des points de vue un peu différenciés, sur qu'est-ce que le temps contraint. Parce que finalement, le temps contraint, je dirais, était pris entre le temps pour le travail scolaire, mais ce que j'appellerais moi, pour proposer encore un autre terme, le temps raisonnable. Mais on peut adhérer au temps raisonnable. Donc si on adhère complètement au temps raisonnable, est-ce qu'à certains moments, ça n'est pas du temps libre ? Or, avec cette, je dirais, là où les points de vue étaient différenciés et pas forcément consensuels, c'est la place du choix pour déterminer le temps libre. C'est-à-dire que, est-ce que le choix permet, est-ce qu'un vrai choix permet de considérer qu'on a affaire à du temps libre, même s'il est utilisé sérieusement? Ou est-ce que ce temps libre utilisé sérieusement ne correspond qu'à un choix illusoire? Vous voyez, c'est une question qui a pu être posée dans le groupe. Donc, ça me paraît important à pointer. Alors, en principe, il me reste que 3 minutes. Je voudrais m'interroger en dernier lieu sur le problème qui a été évoqué de la transférabilité. C'est-à-dire que dans notre atelier, il y avait des gens, enfin des professionnels des internats d'excellence et des professionnels qui n'étaient pas d'internat d'excellence. Et j'ai été frappée, je vous le donne à titre de réflexion, puisque nous sommes ici, j'irais pour réfléchir, on n'a pas de réponse toute faite. C'est que les remarques des professionnels qui n'étaient pas dans des internats d'excellence disent « je ne vois pas de transférabilité ». Ou du moins, c'est ce qu'ils avaient tendance à dire, ceux qui se sont exprimés. Et nous, en tant que chercheurs, quand on a eu fini notre travail, notre rapport, que vous pourrez sûrement avoir prochainement en téléchargement, nous, on avait fait la remarque exactement inverse, en nous disant « mais finalement, quelle est la spécificité de l'internat d'excellence par rapport à un internat ?» Et là où cela se voyait malgré tout, cette question de la spécificité ou non dans les débats de l'atelier, c'est qu'on repérait des superpositions sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure. Si je prends la classification des sociologues entre le temps domestique, celui pour la vie, les repas, le sommeil, l'hygiène, etc., le temps de travail, donc temps de travail scolaire, et le temps de détente, ce qui a été pointé, c'est qu'en fait, le temps de l'internat, il y a des tas de moments où tout ça s'entrelace et où l'interne a à faire des choix qui sont des choix dans une plage horaire limitée, très restreinte, qui concernent du domestique, du travail ou de la détente. Et voyez bien que en franchissant ces catégories, ça devient des choix compliqués. Et je voudrais conclure en disant, on a évoqué à plusieurs reprises hier le fait que l'internat d'excellence permettait de repenser, enfin disons, conduisait à re-réfléchir à la division du travail et conduisait à re-réfléchir à ce qui était des cœurs de métier. Et je pointerai, dans la mesure où j'ai beaucoup travaillé avec des MECS, c'est-à-dire des maisons d'enfants à caractère social, que les professionnels de ces MECS sont comme des professionnels d'internat, avec en plus des publics qui sont probablement nettement plus difficiles que ne le sont, je dirais, les jeunes des internats d'excellence. Et je dois dire que j'ai pas observé beaucoup de compassion et de coopération de la part des établissements de l'éducation nationale, soit par rapport aux tâches des éducateurs qui étaient assimilées à la famille, soit par rapport aux charges de travail que pouvait représenter et aux complications que pouvait représenter un internat MECS. Donc je me dis que si, comme pour les enseignants, ce type de structure et ce type de pratique pouvaient faire regarder les autres un peu autrement, si avec l'internat on pouvait aussi regarder les jeunes qui nous arrivent et les professionnels qui travaillent dans d'autres types d'internat un peu autrement, ça pourrait être un aspect positif. Merci.
Alors je commence. Oui, je souris parce que nous étions dire que nous vous éviterions 2 synthèses. Du coup, vous allez en avoir 3, puisque Dominique Glassman a commencé à en faire une en fin de l'échange, et voilà, vous allez avoir maintenant 2. Donc, vous avez tout gagné. Chacun est d'ailleurs, là, je crois, l'intérêt, c'est que les synthèses ne sont pas les mêmes. Chacun évidemment regarde ces phénomènes avec ses propres obsessions problématiques. Moi, ce que j'ai entendu de la part de nos collègues de Barcelonnette, c'est quelque chose sur une thématique qui me paraît importante dans la question de l'éducation prioritaire et qui est liée à cette question de forme scolaire dont nous parlons depuis hier sans encore l'avoir définie, et parce qu'il y a plein de présupposés d'arrière-plan, mais ça, je crois que ça prendrait trop de temps de faire une recension de ce que cela signifie pour nous. Je dirais que, de mon point de vue, la question des relations parents pose, intervient dans cet aspect plus général des, de la distance qui est celle des familles de milieu populaire à l'école, étant entendu qu'elles peuvent être, elles et leurs enfants, trop éloignées lorsqu'elles ne connaissent pas les réquisites scolaires, mais elles peuvent aussi en être trop proches dans la mesure où elles peuvent aussi avoir des points de vue sur l'école. Tout le monde a un point de vue sur l'école, bien évidemment, parce qu'il y a été, les parents, etc. Et en même temps, en être très proche et le méconnaître. Et il me semble que ce que font nos collègues, moi je dirais qu'elles essaient d'être des traductrices de ces deux univers et d'essayer d'aider à passer entre ces deux univers. Alors, la question des parents est d'autant plus problématique à l'internat que l'internat met en tension deux types d'éducation, l'éducation des parents et l'éducation de l'éducation nationale, je dirais. Les parents sont évidemment totalement légitimes et le risque des internats serait de les délégitimer une première fois en leur disant que, ben, évidemment, ils n'ont pas les moyens de suivre scolairement leurs enfants, ce qui est pour beaucoup le cas, et une deuxième fois dans la mesure où, ben, finalement, on leur confisque leurs enfants, comme ça a été dit, hein, si on entrait dans cette vision-là, qui n'est évidemment pas la vision de l'internat, pour les éduquer véritablement, et peut-être même une troisième fois, on pourrait peut-être vouloir les éduquer à travers leurs propres enfants, pour leur montrer comment ils devraient se comporter eux-mêmes. Donc il y a là toutes ces choses qui sont en tension, et il me semble que dans ce qui est dit, et les inventions qui sont testées à Barcelonnette, il y a là une source de réflexion intéressante de la part de collègues qui, me semble-t-il, ne sont ni dans le populisme, c'est-à-dire le fait de donner raison aux familles surtout, ni non plus dans une espèce de mépris qui les décrédibiliserait pour pouvoir accompagner leurs enfants, que ce soit sur le plan de l'éducation parentale ordinaire, je dirais, ou sur le plan de l'éducation au sens de l'éducation scolaire. Alors, parmi les inventions, je trouve qu'ils méritent d'être interrogés en termes de transférabilité, il y a le fait que les parents sont associés à la commission de recrutement. Alors moi, je n'avais pas encore entendu cet aspect-là. Je ne sais pas si ça se fait ailleurs dans d'autres internats. Mais là, il me semble qu'il y a quelque chose qui est par-delà l'incantation ou la satisfaction que l'on peut donner aux familles qu'elles sont écoutées. Il y a vraiment... Alors c'est par le biais des fédérations de parents d'élèves, si j'ai bien compris, mais néanmoins, ce sont des parents, c'est la représentation des parents. Et je trouve que c'est sans doute un gage important donner aux parents d'élèves que leur point de vue compte et que là ils peuvent avoir un champ de compétences hein, qui dans la mesure où ils interviennent comme d'autres en donnant des critères qui sont sans doute les leurs dans la manière de choisir les élèves qui vont venir. Il y a quelque chose qui me paraît aussi tout à fait intéressant, c'est qu'au fond, progressivement et par pragmatisme, les deux personnes qui étaient là se sont réparties des fonctions. Il y en a une qui est plus spécialement chargée du suivi de la scolarité des élèves, une qui est plutôt chargée du suivi de la vie scolaire, avec, ce que je trouve tout à fait intéressant, des types d'échanges avec les parents qui n'ont pas la même teneur. Des échanges plus proches, plus confidentiels dans un cas, des échanges plus tournés vers la scolarité au sens ordinaire du terme. On peut imaginer que ces deux collègues communiquent à un moment donné, mais néanmoins, du point de vue des parents, je trouve que c'est une chose tout à fait intéressante qu'elles puissent identifier des interlocuteurs qui sont plutôt en charge de tel ou tel aspect et qu'elles se laissent aller, si je puis dire, dans des confidences, ou en tout cas des renseignements qui peuvent être utilement traités ensuite par l'équipe pédagogique. L'autre aspect, il y a plusieurs autres aspects parmi les plus intéressant. Une des tensions possibles, c'est que on sait bien que même si les élèves font leur travail à l'école pendant la semaine, néanmoins, et notamment plus ils vont monter dans les degrés du système éducatif, plus il y aura quand même un travail à faire pendant le week-end. Et là, elles ont une idée, c'est qu'elles font des agendas d'élèves dans lesquels elles disent aux familles non pas comment elles doivent aider les élèves dans les apprentissages cognitifs, mais ce qu'elles auront à vérifier, ce qu'elles auront à suivre, ce qui est de leur propre intervention dans la façon d'accompagner leurs enfants. Et je trouve que ce travail de discrimination de ce que les parents peuvent et doivent faire n'est pas si fréquent que ça. Très souvent, on leur donne de manière indistincte la totalité du suivi des élèves en disant, voilà, vous devez normalement les accompagner. Je renvoie aux travaux classiques hein, sur la question et sur la manière dont les parents de milieu populaire sont ou pas à même d'opérer ces tâches. Il y a tout un travail de traduction sur les bulletins, sur les notes, sur les appréciations. Et je m'en tiendrai là pour laisser la parole à Dominique Glassman. C'est que ce travail de traduction est un travail dans les deux sens, parce que nos collègues, à mon avis, vont au bout de la logique. C'est qu'elles traduisent aussi pour les enseignants, en partant du principe que si les parents ne sont pas nécessairement au courant des codes et des attentes de l'école, les enseignants ne sont pas non plus au courant de la façon dont les parents et ces parents-là, qui ne sont pas eux comme parents, interprètent l'école. Et il y a là, bon, tout un travail, notamment interculturel, hein, qui, je crois, même dans l'école de la République, s'impose, parce qu'en effet, des familles comoriennes personnes en particulier peuvent ne pas avoir les mêmes codes de l'honneur, de la culture, de ce qui est bien, de ce qui est pas bien. Et on voit que, évidemment, les aspects de la scolarité peuvent être des points d'accroche dans les familles pour régler des questions qui ne sont pas scolaires, mais qui sont réglées à travers des questions scolaires. Et là, je trouve qu'il y a un travail de déminage aussi bien du côté des enseignants que du côté des parents pour faire en sorte que les questions scolaires restent des questions scolaires et ne soient pas envenimées par des types de tensions familiales qui font partie de l'éducation des familles, mais dont l'école n'a pas à se charger, de la même manière que les enseignants n'ont pas à se charger de leur côté des difficultés cognitives, surtout s'ils ne sont pas qualifiés pour ça, et au fond, est-ce que c'est vraiment leur travail ?
Je vais prendre le relais en soulignant trois points dans cet atelier. Certains feront écho à ce qu'a relevé Patrick, pardon. Mais ne les répétera pas. Le premier point, ce qui m'a paru intéressant dans l'expérience de Barcelonnette, c'était le souci très fort de faire finalement des parents de Barcelonnette des parents exactement comme les autres. Je dirais de les inscrire dans la normalité en dépit du fait que pour la majorité d'entre eux, ils sont de conditions sociales extrêmement difficiles, qu'ils appartiennent à des milieux culturels relativement éloignés de celui de Barcelonnette, puisque la plupart sont d'origine comorienne, et donc les considérer comme des parents exactement comme les autres, c'est-à-dire au fond des parents comme vous et moi, et donc qui ont droit à la considération, qui ont droit au respect, et pas simplement sur le papier, mais dans la réalité du geste quotidien, y compris dans le respect de la confidentialité de leurs propos qui sont tenus justement au téléphone avec la référente sur les questions plus pédagogiques et plus de suivi scolaire, soit avec la conseillère principale d'éducation sur des questions qui touchent à la vie de l'élève à l'internat et qui donc peuvent aborder de temps en temps de la part des parents des domaines plus intimes de l'existence familiale. Deuxième point que j'aimerais souligner, c'est que cela, bien entendu, cette façon de considérer les parents comme des parents absolument comme les autres, ne fait pas fi de la prise en considération du fait que, effectivement, ils sont dans des conditions parfois un peu singulières et que conditions dont il peut être bon parfois de tenir compte dans l'organisation dans l'organisation même du travail à l'internat. Si on sait que la très grande majorité des élèves ne disposent pas de lieu chez eux pour travailler, ni même de bureau dans leur chambre pour travailler, il vaut mieux s'arranger pour que les élèves aient fait la totalité ou la quasi-totalité de leur travail à l'internat. Et puis, bien sûr, cette réalité de la différence des parents ressurgit dans les conversations téléphoniques par le fait que, à travers ce qui est dit ou exprimé dans une langue qui n'est pas toujours maîtrisée, se disent aussi des modes de fonctionnement familial qui peuvent être plus ou moins distincts de ceux dont on a l'habitude dans les classes moyennes en France, des partages de rôles qui ne sont pas les mêmes entre parents et enfants que ce qui existe dans les familles. Bien, donc ça fait une difficulté, mais que on s'efforce effectivement de surmonter. Et au troisième point que j'aimerais souligner, qui m'a marqué, c'est que finalement, il y a deux soucis et probablement deux efficacités de ces échanges qui sont intenses entre l'internat d'excellence et les parents. Le premier, c'est que ces échanges répétés, réguliers, d'un côté entre parents et référentes pédagogiques, d'autre côté entre les parents et la CPE, permettent, à la suite de la rencontre qui a lieu entre parents et tous ces personnels au début de l'année, donc ces entretiens téléphoniques permettent aux parents de donner à l'institution un visage. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas simplement à un professeur, on ne s'adresse pas à quelqu'un qui a une fonction. On s'adresse à une personne, et ceci est d'autant plus utile et d'autant plus indispensable, d'autant plus précieux, qu'on est né que l'on est peu outillé pour maîtriser l'institution. C'est-à-dire que l'institution passe à travers des personnes. Alors vous direz, c'est le cas de beaucoup, effectivement, quand on va voir dans une école primaire, on va voir la maîtresse de son enfant, c'est une personne, bien sûr. Mais l'expérience montre et les travaux montrent que, à proportion de ce qu'on est éloigné des institutions, on a besoin de leur donner un nom, on a besoin de leur donner un visage, et ces échanges y contribuent fortement. Et par ailleurs, et je terminerai par là, le souci est aussi de permettre à ces parents qui sont en communication avec les personnels de l'internat d'excellence de s'entendre énoncer des objectifs qui soient atteignables. Depuis un certain nombre d'années, dans l'école, on dit aux parents « impliquez-vous dans la scolarité de vos enfants », etc. Et il n'est pas toujours sûr qu'on leur donne des objectifs qui soient réalisables, compte tenu de leurs conditions de vie, compte tenu de leurs conditions d'existence, compte tenu de leurs conditions de travail. Là, on essaye de leur dire « bon, ça, vous pouvez regarder cette fiche de suivi ». On ne leur donne pas des choses démesurées à faire. Et probablement que ça contribue aussi au fait que les parents puissent avoir confiance, pas forcément reprendre confiance, mais avoir confiance dans leur capacité à jouer leur rôle de parent.
Alors pour ma part, j'ai assisté à l'atelier Métamorphose et conflit de loyauté. Alors j'ai essayé de faire une synthèse de ce qui a été dit et puis de le rattacher à quelques apports en sociologie. Alors je rappelle rapidement que les travaux montrent la diversité des internes d'excellence, des liens et des rapports qu'ils établissent avec l'internat. Ces adolescents qui ont eu un rapport difficile à l'école, qui ont connu des ruptures fortes pour certains, perçoivent l'internat d'excellence comme une chance, comme une opportunité. C'est ce qui est ressorti des échanges d'hier. Ceci étant, il me semble qu'ils s'emparent de l'internat d'excellence dans des stratégies identitaires différentes. Et je vais prendre appui sur les apports de Dubard pour essayer de voir dans quelle dynamique identitaire ils se construisent et comment justement ils s'emparent de l'internat d'excellence, c'est-à-dire dans quelle mesure l'internat d'excellence va prendre sens ou pas dans leur construction identitaire. Alors, il me semble, donc à la suite de Dubard, que chaque élève va faire l'objet d'un travail de double transaction. Alors, cette double transaction, elle était très présente dans l'atelier. Il y a à la fois une transaction avec son histoire personnelle et une transaction relationnelle. Alors, la transaction avec l'histoire personnelle de l'élève, ça signifie que finalement, ce que l'élève est aujourd'hui, c'est le fruit de son histoire personnelle et de tout ce qu'il a vécu et intériorisé comme règle de vie et comme norme. L'internat d'excellence va pour lui s'inscrire soit dans une certaine continuité avec son passé familial, scolaire, amical, soit au contraire en rupture par rapport à ce qu'il a été jusqu'à aujourd'hui. Et au niveau de l'atelier, il y a plusieurs éléments qui ont été évoqués et qui m'ont fait donc penser à cette transaction avec l'histoire personnelle de l'élève. Il y a quelques mots-clés comme par exemple les valeurs familiales, l'exis corporel, la place de la femme au sein de la famille, ce qui renvoie à la féminité, au mariage, la question de la religion également, de la vie en collectivité, du ghetto, ou encore des codes et des résultats scolaires. Ensuite, j'ai parlé de double transaction, puisqu'il y a aussi une transaction relationnelle, si on reprend les apports de Dubard. Et là, dans la situation particulière que lui offre l'internat d'excellence, l'élève va établir des transactions avec les enseignants, avec les AED, avec les CPE, mais aussi avec ses pères et sa famille. Et au sein de l'atelier, on a parlé notamment des rencontres qui pouvaient changer tout. Alors, je vais y revenir dans quelques instants, mais il me semble que finalement, les transactions entre ce que l'élève est à un moment donné et ce que l'internat d'excellence va lui apporter peuvent être positives, c'est-à-dire réussies, dans le sens où l'élève va s'emparer de l'internat d'excellence, ou à l'inverse négatives, dans le sens où l'internat ne lui plaît pas. Alors, je reviens sur les différences d'autrui significatives, c'est-à-dire les différentes personnes qui gravitent autour de l'élève et qui peuvent avoir un impact. Alors, on a évoqué dans l'atelier les différents acteurs de l'internat d'excellence qui gravitent autour des jeunes et qui sont attentifs à la situation de chacun. Ces personnes ont une connaissance de l'élève. Alors, je pense aux enseignants, aux AED, etc. Ils vont jouer le rôle d'autrui significatif dans le sens où ils vont permettre à l'élève de rentrer dans de nouvelles dynamiques identitaires. La focale a notamment été mise sur le fait que ces différents acteurs constituaient des personnes de confiance, et on a mis également l'accent dans l'atelier sur l'importance des professeurs dédiés qui constituaient justement ces autrui significatifs aussi. Alors il y a les enseignants, enfin les différents acteurs de l'internat, il y a également la famille. Certains élèves rapportent des bulletins honorables à leurs parents, si bien que finalement le conflit autour de la scolarité s'amenuise ou disparaît. On a évoqué la réconciliation avec les parents, et également l'idée selon laquelle il pourrait y avoir une métamorphose également de la famille et pas seulement des élèves. Et puis, dernier élément parmi ces différents autrui significatifs, c'est les pères. Les pères ont été rapidement évoqués, mais on l'a traité, on va le faire plutôt tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, ils apportent aussi un soutien qui est utile, qui est efficace et qui vient s'additionner aux anciens amis, aux amis du quartier. Alors, dans l'atelier, on a aussi évoqué les pères, mais un peu rapidement à travers les amours notamment. Alors, cette reconnaissance d'autrui, leurs encouragements, leur approbation vont faciliter pour ces jeunes une reconstruction identitaire qui semble d'autant plus facile que, semblerait-il, l'estime de soi n'est pas forcément menacée. Ça va aider les élèves à se projeter dans l'avenir, éventuellement à définir un métier. Seulement, la question que je me suis posée, c'est finalement si le regard des autres change, si les jeunes reprennent confiance en eux, est-ce qu'on peut pour autant parler de métamorphose ? Alors, on a eu des présentations, enfin, par rapport à l'internat d'excellence de Nice, deux configurations, deux élèves, deux cas nous ont été proposés. Alors, je ne vais pas revenir sur ces cas-là, mais plutôt proposer un continuum dans lequel, il me semble, on pourrait finalement inscrire ces métamorphoses. Alors, premier élément qui a été abordé dans l'atelier, c'est le cas d'élèves pour lesquels l'identité pour autrui positive finalement n'a pas réussi à les structurer, donc des élèves qui ne se sont pas forcément bien emparés de l'internat d'excellence et qui conservent un rapport assez négatif à l'école, qui sont dans une situation de désarroi, d'errance, de souffrance, finalement qui n'arrivent pas à s'intéresser. Alors, pour ces élèves, les conflits de loyauté ne sont pas résolus. Ce sont des élèves pour lesquels les questions de différence entre les valeurs familiales et les valeurs de l'internat se posent clairement et qui finalement ne s'adaptent pas au dispositif de l'internat. Donc, des élèves pour lesquels la métamorphose ne se fait pas. Je me suis demandé si on ne pouvait pas les relier au malgré nous de l'internat d'excellence ou aux erreurs de casting qui ont été évoquées hier. Ensuite, une autre configuration d'élèves qui a été proposée à travers donc les deux cas d'élèves, ce sont des élèves plutôt satisfaits de leur choix, qui réussissent, qui bénéficient du regard rassurant et encourageant de la part d'autrui, et qui parviennent tout à la fois à donner du sens à l'internat d'excellence et qui, dans certains cas, arrivent même à transposer des règles au domicile familial. Donc ça, c'est ce que j'ai revu avec une élève il y a quelques jours. Et puis, il me semble que, mais là, ça renvoie peut-être des questions que je me pose davantage, il me semble que finalement, les élèves, ils s'inscrivent sur un continuum entre ceux qui s'en emparent pas et ceux qui s'en emparent plutôt bien, presque dans une globalité. Il me semble qu'il y a qu'on peut inscrire les élèves dans un continuum dans le sens où il y a aussi des élèves pour lesquels l'internat ne convient que moyennement, qui l'acceptent comme une stratégie pour arriver là où ils veulent aller, c'est-à-dire avoir le bac, avoir de meilleurs résultats scolaires, s'éloigner du domicile familial parce que ça se passe pas très bien à la maison. Donc pour eux, on pourrait penser que l'internat d'excellence, finalement, c'est quelque chose de stratégique. Ceci étant, il me semble que leur implication dans le dispositif peut être forte, sans pour autant qu'on puisse parler de métamorphose dans sa globalité, mais là c'est moi qui parle, puisqu'on était peut-être un petit peu sur des positionnements divergents au sein de l'atelier. Alors l'idée ici, c'est qu'il me semble qu'ils peuvent s'impliquer dans le dispositif, sans pour autant que leur rapport à l'école ait fondamentalement changé. Là je ferai référence à ce qui a été dit hier par Dominique Glassman, puisque finalement c'est mieux qu'avant, mais est-ce que c'est pas un mal nécessaire ? Les élèves sont conformes aux règles, le travail est fait, il est bien fait, les devoirs sont rendus en temps et en heure, mais est-ce que ces élèves n'ont-ils pas toujours du mal à comprendre ce que l'on attend d'eux, et est-ce qu'ils ne rencontrent pas toujours des difficultés pour se débrouiller seuls ? Donc ça renvoie ici finalement à la qualité, au sens du travail. Ensuite, leur implication dans le dispositif, elle peut être forte, mais sans pour autant être transposée à la sphère familiale, où le respect des règles, la conformité à ce qui est attendu, finalement, elle va prendre une forme peut-être plus lâche au sein de la sphère familiale. Toujours dans la même idée, il me semble que leur implication dans le dispositif peut être forte, sans pour autant, et là je reprends ce qu'ont évoqué Philippe Piron et puis Patrick Rayou hier, sans pour autant qu'on puisse parler d'acculturation des pratiques culturelles, puisque ça a été dit hier, il y a aussi un temps de maturation de la culture légitime. Donc c'est pour ça que j'avais tendance finalement à inscrire les élèves plutôt dans un continuum, et non dans quelque chose de tranché entre eux, ils s'en emparent ou alors, enfin dans leur globalité, ou alors ils s'en emparent pas. Alors, donc on le voit à travers ce continuum, finalement, les transactions entre les élèves et l'internat d'excellence sont complexes. Certains élèves se reprennent, ils font de l'internat le point de départ d'une seconde, voire d'une dernière chance, mais le pari n'est pas gagné. Encore 3 minutes. Alors, ceci étant, le dispositif a un challenge élevé. Hein, il s'agit de permettre à des élèves d'apprendre, d'obtenir un diplôme, de transformer leur rapport au savoir. L'enjeu est de taille et les conflits et loyautés sont sans doute inhérents à tout parcours d'exception. Alors les conflits et loyautés ont été définis par les personnes présentes, enfin par la personne qui a présenté ce qui se passait à Nice, comme le fait de faire un choix entre différentes légitimités, donc différentes légitimités familiales, scolaires, amicales. Et finalement, a été évoquée l'idée d'un passage entre un sujet captif, voire un objet captif d'une culture familiale, d'une culture du quartier, à un sujet émancipé. Et finalement, le choix n'est pas facile. Et il me semble que ces choix qu'ont à faire les internes d'excellence, on les retrouve dans d'autres configurations. Je pense ici aux élèves de milieux populaires qui accèdent, par exemple, à Sciences Po ou qui accèdent à des classes préparatoires aux grandes écoles. Je pense aussi aux jeunes étudiés par Stéphane Beau qui témoignent d'une difficulté à concilier finalement vie universitaire et vie de quartier. Je pense à la romancière dans un autre registre, Annie Herniaud, qui parle de la place, et parce qu'on a évoqué la honte du père aussi dans l'atelier. Je pense aussi à Vincent de Gaugelac lorsqu'il parle de la névrose de classe. Donc il me semble que c'est quelque chose finalement qu'on trouve dans ces parcours un petit peu qui sortent de la culture familiale et puis de la socialisation qui s'éloigne de la socialisation primaire. Donc on le voit, les exemples sont nombreux et ils témoignent finalement de la difficulté à évoluer dans un univers éloigné de celui auquel on a été socialisé et du tiraillement entre une appartenance collective à un groupe en tant qu'élève de l'internat d'excellence, qui peut être stigmatisante au début, et une distanciation à ce groupe par le fait justement qu'ils ont été distingués pour être dans ce dispositif. Donc une tension plus ou moins harmonieuse, conflictuelle, entre les valeurs de l'internat d'excellence et les valeurs de la famille. Si bien que certains ont été amenés à parler de bricolage, de tricotage et de cuisine, puisque les élèves ont à faire face finalement à trouver un équilibre entre ces différents modes de socialisation familiaux et scolaires. Donc finalement, être interne d'excellence, ça exige des formes de renoncement à une éducation et à une culture qui correspondent donc à une distance du milieu familial et amical qui peut être coûteuse sur le plan affectif. Alors la question de savoir comment aider au mieux les élèves, j'avais pensé à quelques travaux en sociologie de l'éducation qui renvoient aux modalités de l'autorisation, et là je pense à Jean-Yves Rochex, qui renvoie aussi à l'idée de socialisation par conversion, et là je pense à Hélène Buisson-Fenet et Sandrine Landrier, mais j'ai plutôt évoqué ce qui a été dit au sein de l'atelier. Puisque ce qui semble important pour aider les élèves, finalement, c'est de leur donner des outils pour choisir et non pas choisir à la place, c'est-à-dire ne pas renier la culture familiale, mais bien leur donner des outils pour faire des choix, pour se positionner. Donc ça passe par l'accompagnement, par l'adaptation, par l'écoute des élèves, qui semble vraiment indispensable à leur émancipation. Alors, quel est le plus de l'internat d'excellence ? La réponse a été que c'est finalement une connaissance de l'élève et de l'enfant. Donc, on n'est pas seulement sur l'élève, mais bien aussi sur l'enfant, sur l'adolescent, et sur, j'insiste, mais parce que ça a été très présent, sur l'importance de respecter les valeurs familiales et aussi d'associer les parents pour aider les élèves, justement, à se construire, à faire face à ce conflit de loyauté. Je m'arrête.
Merci à tous les cas.